MuTech Montréal, le plus important festival de créativité numérique et de musique électronique en Amérique. MuTech Montréal, le plus important festival de créativité numérique et de musique électronique en Amérique du Nord, revient pour sa 24e édition au Quartier des Spectacles. Du 22 au 27 août, vibrez au son de plus d'une centaine d'artistes locaux et internationaux, tout en profitant d'expériences audiovisuelles uniques. Au programme, instruments électroniques, mais aussi synthétiseurs, intelligence artificielle, enregistreurs à bobine et même une symphonie d'insectes. Retrouvez la programmation complète et la billetterie sur le site montréal.mutech.org.
Hey, salut, c'est Gab Bouchard, vous êtes à l'écoute de choc.ca.
J'ai le goût de finir à même place que toi, finir à même place que toi. C'est cool se voir, c'est cool se voir.
Bien le bonsoir et bienvenue à cette toute nouvelle émission des Amazones. La 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 la
la
la la la la la
la.
Je fais plein de bruit parce que dans le fond, on en parlait avant de rentrer en onde, mais bonjour, je m'appelle Ellie Simpson, je suis l'animatrice des Amazones et je suis accompagnée d'Isabelle Sasseville. Comment ça va?
Hey, ça va bien, toi?
Ça va très bien. J'aimerais, avant toute chose, dans le fond, c'est ça, dire qu'au début, je prends un peu mes aises parce qu'on nous a un peu expliqué qu'à choc, ça se peut que vous nous écoutiez, ça se peut que vous écoutiez comme 3 épisodes de suite parce qu'on on produit l'épisode toujours live aux 2 semaines, les mercredis soirs de 20h à 21h. Pour des raisons, en fait, hors du contrôle de vraiment beaucoup de gens qui travaillent super fort, et j'aimerais saluer toute l'équipe de choc.ca, il y a un enjeu au niveau, justement, de la sortie des épisodes. Donc, ça se peut que vous nous écoutiez dans cette semaine. Fait que, tant mieux, parce qu'on parle pas de quelque chose qui est ultra d'actualité.
Non.
Fait que c'est pas grave. On n'est pas comme le c'était maintenant ou jamais.
Non, on va être encore d'actualité dans quelques semaines.
Ben, je pense que oui.
Je peux pas garantir sur des décennies, mais sur quelques semaines, oui.
Ah, assurément.
Assurément.
On a déjà fait des épisodes sur des saisons passées d'une série, alors que, mettons, la saison d'après sortait 2 semaines plus tard. Parce que des fois, c'est comme, oh, c'est le temps de faire un petit rappel avant d'eux. Donc, écoutez-le, soit quand vous avez terminé The Bear ou quand vous êtes en train de l'écouter. Vous avez au moins écouté les 2 premières saisons parce qu'on va spoiler des shit.
Oui, il faut. On va vraiment spoiler des shit. Mais sinon, on fait ce qu'on veut.
On fait ce qu'on veut.
C'est ça qui se passe.
Ben oui, on est bénévole. Si on fait ce qu'on veut. Hey, Isabelle, je voudrais avant aussi qu'on commence dire que j'ai un salut particulier à faire à Hermanie qui devait être avec nous aujourd'hui, mais qui, pour des raisons, encore une fois, hors de contrôle, ne peut pas être là, mais qui m'a dit, et je cite, « Je ne vis que pour The Bear ». Donc, il y avait comme une espèce de fascination et d'appréciation de l'œuvre qui est ultra méritée, là, on va se le dire. Bonjour Hermanie. Merci.
Allô.
Merci d'être des nôtres en pensée et merci pour tes réflexions sur la série aussi.
On va essayer de pas te faire honte.
On va essayer de pas te faire honte, exactement. Et un salut aussi particulier à Marc-Christine, qui peut pas être là aussi aujourd'hui, mais qui a partagé des super belles réflexions, et je vais essayer de vendre le plus possible ses réflexions en son absence. Alors, à partir de maintenant, s'il y a quelque chose que j'ai dit que je vous ai mal cité, je vais faire un meilleur coup pour la prochaine épisode. J'espère. Voilà. Donc, Isabelle, sans plus tarder, on parle de The Bear aujourd'hui.
The Bear.
Mais avant qu'on parle de la série,
oui.
Dis-moi, je sais que tu as fait du service à la clientèle.
Oh que oui.
Je sais que tu as travaillé avec des gens. Moi aussi, j'ai travaillé avec des gens, mais pas dans le domaine de la cuisine, de la restauration et tout ça. C'est quoi ton expérience, toi, avec le domaine de la restauration?
Ah là 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 là. J'en ai fait.
Écoute.
J'ai été serveuse.
Ben, m'en doutais parce que j'étais comme là, quelqu'un qui étudie au conservatoire de théâtre.
C'est ça, j'ai fait du théâtre, j'ai été serveuse à un moment donné.
T'étais-tu serveuse à l'Express, genre?
Non, mais arrête là. Serveuse à l'Express. Non, non, ils veulent des vraies personnes qui ont qui font ça comme profession à l'Express. Ils veulent pas une fille qui va y lâcher la minute où qu'elle va avoir un contrat. C'est ça qui se passe avec l'Express. Je pense que c'est... en fait, c'est un peu drôle parce que non seulement j'ai travaillé dans des restaurants, mais je viens de quitter un emploi dans une compagnie de resto et hôtel.
De resto et hôtel?
Oui, resto et hôtel. Une genre de place où il y a ça. Là. Je sais pas trop comment
appeler. Un genre de bed and breakfast?
Non, un genre de consortium d'entreprise. Je sais pas c'est quoi le mot exact, mais c'est juste... trois restaurants et une dizaine de... une dizaine de restaurants, trois hôtels. Puis... où, en fait, j'ai pu voir aussi les dessous de l'hospitalité de manière, justement, à comprendre là, l'opérationnel puis comment ça se passe dans le day-to-day. Puis aussi voir des gens qui font des carrières là-dedans. Mm-hmm. Ce qui est vraiment différent de...
La personne qui fait ça parce qu'en attendant.
Oui. Puis... Puis aussi, tu sais, veux pas, ça déconstruit aussi des préjugés parce que je veux dire, il y a des gens qui ne travaillent pas dans le haut de gamme, qui font aussi ça de leur vie comme carrière.
Ben oui.
C'est pas moins noble. Au contraire, moi, j'ai été serveuse de déjeuner. Je vais vous dire, ben franchement, les déjeuners, c'est l'affaire la plus fucking ingrate que le service a apporté.
Mais ils l'ont dit dans The Bear, genre, fuck brunch.
Ah oui, parce que c'est infernal. T'es toujours en train de... En fait, c'est parce qu'il y a toujours quelque chose à apporter. Puis, faut que tu serves du café, constamment. Faut que tu serves du café. T'sais. Puis toutes les politiques d'un restaurant à l'autre sont pas les mêmes. Il y en a qui chargent pour à partir de certaines quantités de tasses. Il y en a, c'est café illimité. Fait que, tu sais, il faut que tu t'adaptes. Mais d'une manière ou d'une autre, tu fais beaucoup plus de pas. Fait que ça change vraiment beaucoup ta journée.
Puis,
j'avais des bons mollets.
Est-ce que les gens... Parce qu'en même temps, tu sais, mettons, je pense à des restaurants qui ne font que des brunchs.
Mm-hmm.
Je me dis, ben, c'est-tu plus agréable de faire, mettons... OK, ça va être fucking intense pendant 4 heures, mais c'est 4 heures. Mais c'est la prep avant, c'est la prep du lendemain là, après. Moi, c'est ce que la série m'a appris, en fait. C'est que je savais que, tu sais, dans le fond, si le restaurant est ouvert de 6 à 2 heures et demie, 3 heures, ou s'il est ouvert, mettons, de 5 à 3 heures du matin, le restaurant, ben ils sont là depuis 8 heures à matin quand même. Oui. Et c'est ça qui m'a fasciné, en fait, parce que j'ai lu Le Plongeur. En fait, non, c'est pas vrai. J'ai lu le début du Plongeur 6 fois. À chaque fois, j'ai trouvé ça exceptionnel. Puis, en bonne TDA, j'étais comme, ah, c'est vraiment bon, Le Plongeur. Oh shit, j'ai vraiment beaucoup de choses à remettre pour l'école. Puis ensuite, je fais comme, ah, shit, ça fait 2 mois. Puis, il va falloir que je reprenne mon livre parce que je vais le recommencer du début. Mais ça se lit super bien. Fait que je suis comme.
Ça se lit bien, mais c'est une brique.
Ouais.
T'sais, fait qu'il faut que t'investisses du temps.
Ouais.
Moi, personnellement, j'ai lu dans un moment où j'avais du temps. Fait que je l'ai passé, là, de long en large. Ce qui est différent de la réalité de The Bear, c'est qu'on est vraiment, surtout dans la saison 1, dans la saison 2, ça va un peu changer, mais dans la saison 1, on est vraiment dans une cuisine.
Mm-hmm.
On est dans une place où il y a de la bouffe qui se fait.
Mais il n'y a pas de service au table.
Il n'y a pas de service au table. Fait que ça change la dynamique de ce que c'est. Pour revenir au brunch, l'affaire de « Ah, c'est intense, nanana, puis c'est le fun, puis nanana. » Tu sais, le service aux tables, ce que ça amène, puis le service des repas du soir, ce que ça amène, c'est la possibilité de vendre plus parce que tu peux vendre de l'alcool.
Mm-hmm.
Généralement, les brunchs, là, maintenant avec les boozy brunchs, c'est peut-être plus vrai, mais le brunch, c'est que c'est un repas pas cher sur lequel tu vas travailler beaucoup parce qu'il faut que tu serves du café, puis des confitures, puis du ketchup, puis des machins, puis des extras, mais sur lequel tu feras pas beaucoup de pourboire parce que la facture est pas élevée. Fait que pour que ça commence à être intéressant pour le serveur, faut qu'il en fasse beaucoup. Il y a vraiment une passion du brunch qu'il faut qu'il embarque à un moment donné parce que c'est une job un peu ingrate par moment. Mais c'est vraiment pas sur le service qu'on se concentre dans The Bear, c'est vraiment les cuisines.
Mm-hmm.
Ce que moi, je trouve palpitant, c'est que toutes les gens qui ont travaillé en resto vont comprendre ce que je vais dire. Les cooks, ça a des tempéraments.
Ben oui.
J'ai rarement rencontré un cook qui avait aucune personnalité. En fait, j'en ai rencontré un et... La vieille serveuse qui faisait mon training à ce moment-là, elle n'écoute pas, mais allô Anne-Marie, elle me disait, je peux pas croire que ce gars-là travaille ici. Il est pas capable de faire une soupe.
Oh.
Et à chaque fois qu'il faisait de la soupe, c'était immangeable. Oh, c'était pas bon, c'était sans saveur, les textures étaient pas agréables, ça goûtait la merde. Puis du moment que c'était quelqu'un d'autre qui faisait la soupe, soudainement, c'était le paradis. Puis c'était comme, à quel point t'es pas bon que tu manques ta soupe?
Mais ça, c'est quelque chose qu'on a même vu dans la série, tu sais, je veux dire... Clairement, Carmen, le personnage principal. On va mettre en contexte la série. Là,
oui, faisons parce que, là, ça, parce que là, on divague.
On
là.
Divague beaucoup. Mais je voulais surtout avoir un peu... Là, vous comprenez aussi d'où on arrive. Parce que c'est jamais la même chose quand on regarde une œuvre de fiction qui veut dépeindre, pas la réalité, mais qui veut dépeindre un type de dynamique, je vais le dire comme ça.
Tout à fait.
Parce que je pense que ça reste que c'est une œuvre de fiction. Une œuvre de fiction va pas être dans la réalité. Puis il y a des choses qui ont pas de bon sens dans The Bear, mais comme qu'on va pardonner parce que c'est une œuvre de fiction. Puis il faut résumer des choses en 10 épisodes. Tu sais, fait qu'il y en a pas de problème. C'est pas un documentaire. Mais voilà, mais je voulais savoir de où on arrivait de notre historique.
Oui.
Parce que clairement, moi, j'en ai pas d'historique en restauration. J'ai acheté beaucoup de nourriture dans ma vie, mais je ne l'ai pas servi.
Ben, moi, j'ai travaillé avec des cuisiniers.
Ben, c'est ça. En fait, c'est pas vrai. J'ai travaillé 2 semaines au Resto du Cœur de la ville de Liège.
Ça s'est bien passé, visiblement, 2 semaines?
Ben, en fait, j'étais là, j'avais 15 ans, on faisait un voyage.
OK.
C'était l'objectif, en fait. On allait faire 2 semaines là-bas.
OK, OK, fait.
Puis on était bénévoles, là, je veux dire, on avait payé notre billet, là. On était bénévoles, on a coupé des patates. Puis on a servi des repas aux tables. Puis c'était cool. C'était vraiment une belle expérience. Belle introduction dans le domaine de l'intervention communautaire. Mais c'est ça. Mais bref, fait que c'est ma seule expérience de cuisine. Tout ça pour dire que qu'est-ce que c'est The Bear? Donc, c'est une série sur Disney+, mais en fait, qui est une série de FX, mais qui est diffusée sur Disney+. Donc, si vous voulez l'écouter en écoute continue actuellement au Canada, ça commence en fait que Carmen, qui est jouée par Jeremy Allen White, qui avait joué dans...
Shameless.
Que j'ai pas écouté.
Que j'ai pas écouté non plus, puis que tout le monde fait le gars là qui jouait dans Shameless. Que moi, j'ai pas plus le référent, je suis désolée.
Ben voilà. Mais donc, Jeremy Allen White. OK. Là, on saute beaucoup du coq à l'âne. Je tiens mon doigt et je vais vous dire après pourquoi j'ai pas écouté The Bear au début, puis c'est à cause de lui, mais je vais vous l'expliquer après. Qui, dans le fond, reçoit en héritage le resto de type resto, genre où est-ce qu'on fait des sandwichs de grillade de Chicago de son frère, alors que son frère, donc, est quelqu'un qui a appris à faire de la cuisine sur le tas par passion dans sa famille et qui a repris le restaurant familial et qui offre un service, c'est ça, un peu plus proche, mettons, d'un délit. Je pense pas que c'est le bon terme, là, mais tu sais, comme un peu proche de ça. Alors que Carmen a décidé qu'il allait travailler il allait devenir le meilleur. Puis il a gagné des prix.
Il est allé étudier en cuisine, en fait. Il a fait un parcours classique.
Exactement, mais tu sais, parcours classique, genre aller étudier la pâtisserie à Copenhague, puis tu sais, comme avoir rencontré des gens en Europe. Puis est allé travailler dans le meilleur restaurant du monde à New York, être le chef du meilleur restaurant du monde à New York. Donc voilà, et il a accepté de prendre le restaurant de son frère, et on découvre après pourquoi, parce que je l'ai mis dans la description de l'épisode, mais Content Warning, c'est une série parfois très 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 divertissante, mais au combien dramatique aussi par moment.
Oui.
Donc c'est des sujets sérieux, c'est pas des sujets légers, mais qui a une multitude de moments de lumière à l'intérieur quand même.
Oui.
Mais voilà, son frère donc qui s'est suicidé et qui a laissé en héritage le restaurant. Et on retrouve donc à l'intérieur de cette cuisine-là une série de personnages, des gens qui viennent d'arriver en cuisine, des gens qui sont là depuis super longtemps, des gens qui ont connu son frère Michael, des gens qui veulent pas du tout embarquer dans le trip de Carmen de d'être un peu plus professionnel, des gens qui sont au contraire qui sont ravis de ces changements-là, ou du moins qui voient ça comme une opportunité de pouvoir se développer. Je pense entre autres au personnage de, et là son nom ne me vient pas, alors une chance que j'ai la page ouverte, le pâtissier là.
Oui, lui.
Lui. Marcus!
Je suis tellement pas bonne avec les noms.
Marcus!
Oui, Marcus.
Voilà, et en fait, Carmen, à l'ouverture, va être rejoint par Sydney, qui rêve de devenir une chef, une grande chef, qui étudie dans une bonne école et tout ça. et qui prend l'opportunité d'aller travailler là-bas et qui va devenir rapidement son bras droit dans cette démarche-là.
Oui.
Donc, la série commence comme ça.
Pour les gens, j'ai une pensée, pour les gens qui veulent savoir le feel du resto, Schwartz, ce genre de resto-là, des délits ici qu'on aurait, qui est un peu le même vibe, c'est-à-dire kitchen, pas de service au... Ben, service aux tables par les mêmes personnes qui cuisent la bouffe. Puis, pas changer de décor depuis l'ouverture, puis pas changer de menu non plus.
Ben, ça me donnait une vibe, parce que Schwartz, je suis pas allée depuis très, très, très longtemps. Je suis allée une fois dans ma vie, je pense. Puis... maintenant, je mange plus de viande, fait que j'ai comme pas rapport là-bas.
Non, c'est clair.
Mais j'avais comme un feeling de tu sais, comme mettons la bouffe puis la notoriété d'un Schwartz, mais avec comme mettons l'énergie d'une belle province là, tu sais.
Ouais, en même temps. Mais dans un rush chez Schwartz puis c'est pareil, tu sais.
Ben ça se peut, c'est la même chose. C'est une bonne expérience.
C'est un rush dans un délit, c'est un rush dans un délit.
Ben c'est ça, tu sais, les gens qui se crient les commandes à travers la tête, puis
D'ailleurs, c'est difficile. Ben en fait, c'est ça, la première saison, ça va axer beaucoup sur justement la reprise du restaurant par le frère en fait Carmi qui arrive, puis le fait que tout le monde doit passer aussi à travers cette épreuve là d'avoir perdu
Michael.
Qui était le cœur de ce resto-là, puis de manière très tragique, en fait. Puis tout le monde est en son deuil aussi, tu sais.
Ouais.
Fait que ça met plusieurs affaires en parallèle. Fait que la saison 1 se concentre vraiment plus là-dessus. Puis quand on arrive là-dedans, on comprend la famille, mais il nous plonge directement les deux premiers épisodes dans des rushs de cuisine. Fait que là, le volume est très élevé. Moi, j'ai eu de la misère au début parce que j'étais comme, c'est beaucoup comme quand ça roule dans une vraie cuisine. Donc, c'est un peu insupportable de regarder ça sans rien faire. Ça peut être vite agressant. N'hésitez pas à baisser le son.
Oui. Mais tu vois, moi, je l'écoutais avec mes deux partenaires qui ont travaillé en cuisine. Puis les deux ont haï ça, écouter la série.
Ah, c'est terrible.
Puis en fait, c'est qu'ils reconnaissaient la qualité de la série en l'écoutant. Ils étaient comme, non, mais ça a l'air bon, mais je suis pas capable. C'est trop intense, c'est trop... Le niveau de réalisation est quand même très, très, très dynamique, là, on va le dire aussi. C'est très anxiogène, mais c'est parfait parce que ça fait que ta réalisation est axée sur l'émotion. Et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment une bonne série de show don't tell, mais les choses vont vite.
Oui.
Tu comprends des dynamiques parce qu'il y a un regard qui est posé sur une photo quelque part. Puis le plan après, il change. Fait que c'est exceptionnel au niveau de ce choix-là de direction. Mm-hmm. C'est vraiment très, très bon. Sauf que, mettons, moi, je ne l'ai pas vécu, cette anxiété de la cuisine. Fait que j'ai pas non plus de... J'ai pas peut-être le traumatisme, j'ai pas de PTSD de ça.
Ben moi, je l'ai vécu, puis tu sais, je veux dire, même quand ils ont fait le plongeur en film, il y a du monde qui travaille en resto, qui ont eu des difficultés à regarder le film parce que c'était trop pareil, tu sais.
Mm-hmm.
Puis cette énergie-là de tout le monde crie, puis il y a du bruit, c'est ça, c'est galvanisant quand t'es dedans, puis quand tu le fais, mais de l'extérieur... C'est insupportable.
T'sais. Ben c'est insupportable. C'est aussi, mettons, je pense à, mettons, l'émission Les Chefs, que j'écoute tout le temps, là, t'sais, de façon assidue. Mais tu vois, il y a des gens, mettons, aux chefs qui, je pense à une candidate la dernière saison, puis à un moment donné, elle n'a pas réussi, t'sais, elle n'avait pas fini son plat. Puis elle a dit, qu'est-ce que tu veux, moi, je suis lente. Puis j'étais comme... Je l'écoutais puis j'étais comme, pour vrai, là, je trouve ça nice. T'sais. Je trouve ça nice que quelqu'un fasse comme, garde, c'est pas mon truc de faire comme justement l'espèce de dynamique où il va falloir qu'on se crie après, puis il va falloir qu'on se presse, puis il va falloir qu'on se dise comme, comment ça, j'ai pas encore tant à faire? Parce que c'est comme, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Puis pourquoi pas? T'sais, mais en même temps, pourquoi pas? Peut-être que tu serais mieux d'avoir un service de traiteur que de travailler dans une place où est-ce qu'il faut
c'est
que tu te
rendes
400.
C'est ce que j'allais dire, parce que ce qui motive la vitesse puis ce qui motive cette euphorie, ça reste quand même les clients, tu sais.
Exact.
Ça reste quand même de sortir des plats dans un délai raisonnable pour des gens qui veulent manger chaud. Fait que, tu sais, ça, c'est toujours ça l'objectif. C'est toujours ça qui est à pas perdre en tête. Puis c'est ça au début que tu apprends aussi quand tu deviens serveur. C'est que jusque dans une certaine mesure, tu as le contrôle de ton rush. Jusque dans une certaine mesure, tu es responsable des plats qui sortent et qui ne sortent pas. Puis c'est pas une responsabilité qui incombe juste à la cuisine, c'est une responsabilité partagée. Parce que si tu punches en cabochon, pour reprendre les mots du milieu, tu vas te retrouver avec plein de commandes qui rentrent en même temps en cuisine puis qui vont sortir un peu tout croche parce que t'as tout envoyé tes commandes en même temps.
Ah, mais c'est ça qu'on voit dans la série, à un moment
mais
donné.
Mais oui, parce que moi, j'étais comme, il a punché comme un cave. J'étais tellement fâchée, en tout cas. Mais puis il y a un bout aussi où est-ce qu'ils ont des problèmes avec leur machine à punch, là, puis ça oui. sort comme tout croche. Mais c'est ça, t'es responsable de comment tu punches tes affaires. Fait que c'est sûr que si tu prends toutes tes commandes en même temps puis tu rentres toutes tes commandes en même temps puis tout ça arrive dans la cuisine, premièrement, ils vont taillir.
Fait que dans le fond, ce que tu dis, c'est que, mettons, tu prends la commande de la table,
oui.
tu retournes, tu
punches. Rentres la commande, tu vas chercher la commande d'une autre. Faut que tu mettes de l'air parce que eux autres, ils en ont besoin. Puis souvent, on va commencer, tu sais que si t'as un groupe qui rentre, tu veux commencer le plus vite possible à prendre les petites tables autour parce que sortir le groupe tout en même temps, ça va leur prendre tellement de jus et d'énergie que c'est les tables après qui vont pâtir. Fait que tu essaies de faire pâtir le moins de tables possible avant de prendre ton gros groupe. Tu sais, c'est toutes des techniques que tu finis par apprendre, mais quand tout le monde rentre en même temps, faut que toi, tu te fasses une priorité dans ta tête. Qui je vais voir en premier dans ma section? Qui est arrivé en premier? Qui je peux prendre en premier? Puis tu gardes les groupes pour... Tu les retardes le plus possible. Tu peux pas les retarder indéfiniment, mais généralement, ils se retardent toujours un peu eux-mêmes parce que c'est toujours plus long quand il y a plus de monde. Regarder le menu, choisir.
OK.
Ça affecte ton service.
OK. T'sais. Mettons, là... on va parler de la série aussi, là. Mais j'ai une question, là, comme qui me brûle les lèvres.
Oui, vas-y.
Mettons, j'arrive, puis je suis avec un 6 personnes. Okay?
Oui.
On va être 6.
Oui, oui.
On va être 6. Puis j'arrive avant.
Oui.
Toi, là,
oui.
Tu veux-tu que je commande le plus tôt possible, comme ça, ben au moins, ça, toi, c'est fait, puis je dis, attends pas après mes amis, on s'en fout? Ou t'es comme, j'espère qu'elle va pas me demander ça, parce que dans le fond, je vais comme servir le groupe au complet?
Je comprends pas ta question.
Est-ce que c'est plus poli ou plus facile pour les gens à cuisine? Parce que souvent, on a comme l'impression que ben il faut que tout le monde mange en même temps. Mais je suis comme, moi, pour vrai, je m'en fous. Si j'arrive comme 25 minutes après tout le monde, commencer à manger, puis je vais comme vous rattraper. Mais...
Clairement, mais tu sais, si un groupe qui arrive puis qu'on me dit il y a une personne qui va arriver dans 30 minutes, bien sûr qu'on va commander la bouffe pour les gens qui sont là. On commandera l'autre tout seul, c'est pas grave.
Oui, mais est-ce que ça te ferait comme quasiment plus plaisir que c'est comme, ben si vous êtes 6 puis que tout le monde arrive séparé, vous pouvez commander comme chacun votre tour puis comme...
Ça dépend. Si je suis dans le jus puis que vous arrêtez pas de commander des drinks, peut-être pas.
Ah, je comprends. C'est bon.
Ça dépend. Tu sais, on va attendre l'autre pendant 45 minutes, on va boire des cocktails. Des fois, c'est pas une bonne nouvelle. Ça dépend toujours dans quel type de resto tu travailles, mais le moins de staff t'es, le plus de choses tu vas avoir à faire. Puis servir l'alcool, ça peut faire partie de ta tâche si t'as pas de barman, tu sais. Fait que...
Trou
date, hein? Mais bon, pour remettre ça en perspective dans la série, il y a des moments comme ça où, justement, on voit du staff qui a visiblement appris sur le tas, qui ont été formés par de la tradition orale, mais qui viennent pas nécessairement de grandes cuisines. Puis dans la première saison, on a vraiment un gros clash entre Carmi qui vient d'une méthode plus classique.
Oui, puis qui reste qui reste super tard le soir, mais qui finalement n'a pas de vie.
Non.
Mais en même temps, on comprend plus, je trouve, dans la deuxième saison. T'sais, on dirait qu'au début, on est juste comme, OK, cette personne-là est dédiée à la cuisine. Ah, cette personne est dédiée à la cuisine. Puis finalement, tu comprends que, OK, non, cette personne-là a tellement d'enjeux que...
Derrière chaque workaholic, il y a des problèmes.
Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas juste la passion, le rendu là. C'est genre... C'est
aussi une fuite en avant.
C'est une fuite en avant, effectivement.
Puis c'est ça. Puis dans la première saison, tu le vois aussi dans son émotivité d'avoir perdu son frère, qui était visiblement très important pour lui. Tu vois aussi les interactions avec son cousin.
Ouais. Mais qui n'est pas un cousin, finalement.
Non.
C'est pas clair. Mais on parle de Richie.
Oui. Avec qui c'est comme...
Mais ils sont un peu en compétition pour l'amour de Michael. Ça, c'est clair.
Un petit peu. Puis Puis c'est ça, c'est tout aussi des interprétations de leur relation avec ce gars-là, puis de comment ça s'est décliné dans la suite des choses avec le restaurant. Ouais. Puis, tu sais, il reste des petits ressentiments puis des affaires pas réglées. Puis, tu sais, ça montre beaucoup des gars avec des gros problèmes de communication ouais. aussi. Puis c'est une série qui est réaliste dans le ton parce qu'on n'essaye jamais de les démoniser. Puis ce sont pas non plus
des épées.
Ou des blocs de marbre. Tu sais, mm-hmm. des fois, on nous montre beaucoup un archétype d'homme qui est loin de ses émotions puis qui est froid. Mais ces gars-là, ils sont loin de leurs émotions puis ils sont quand même sanguins.
Mm-hmm.
Quand même, c'est des gars qui se fâchent, mais leur seule émotion, c'est la colère puis c'est un fourre-tout pour toutes.
Mais Richie, il pleure aussi puis il a plein d'émotions. C'est...
Mais il comprend rien de ce qui se passe.
Mais ouais.
J'ai l'impression qu'il comprend, il comprend pas ce qu'il vit, puis comment ça sort, puis il est dans le vécu, mais il est pas dans la gestion.
Mm-hmm.
Tu sais, parce que l'adulte, en fait, devenir un adulte, c'est un peu ça, là, c'est prendre ses émotions, se donner le droit d'y vivre, mais de les gérer quand même un minimum.
Mais on voit quand même très tôt dans la série qu'il peut parler à sa fille.
Ah oui, complètement.
Puis qu'il est pas inapproprié, puis il est dans l'écoute active. Il est dans la reconnaissance des émotions de sa fille.
C'est zéro un humain inapte.
C'est ça.
Mais il est maladroit.
Exact. Puis ça me fait penser un petit peu aussi au personnage de, de Uncle Jimmy.
Oui.
Qui est clairement dépeint, on dirait au début, comme l'antagoniste de la série. Mm-hmm. On veut quasiment qu'on croit que Uncle Jimmy, parce qu'il y a une épée de Damoclès qui pèse au-dessus du restaurant, qui flotte, dis-je, au-dessus du restaurant, que comme on va mettre le couperet là-dedans. Puis c'est un peu lui qui a les cordons de la bourse à travers ça. C'est un peu lui qui va décider la journée où est-ce que le restaurant, ça marchera pas. Parce qu'il va littéralement dire à son... Tu sais, il est même pas lui, le restaurant, là.
Non.
Mais c'est juste comme, parce que ton frère m'a emprunté de l'argent, puis que là, c'est toi le propriétaire du restaurant, c'est toi qui me dois 300 000 piastres
maintenant. C'est ça, c'est comme je te possède un peu quand même.
Mais tu sais, on s'entend, c'est un peu... c'est comme, ben, ça n'a aucun crise de sens. C'est comme dans la vraie vie. Mettons, moi, j'ai prêté 300 000 pièces. Mais en même temps, j'aurais jamais ça, 300 000 pièces à prêter à quelqu'un. C'est peut-être pour ça que je réfléchis pas de même. Mais tu sais, je veux dire, pourquoi est-ce que c'est pas une dette qui se passe avec, ben, peut-être dans une question d'honneur?
Ça dépend ce qu'ils ont signé.
Mais ils n'ont rien signé.
Ils n'ont rien signé. Je pense que c'est vraiment plus, en effet, une question de principe.
Ouais.
Parce que techniquement, c'est vrai que quand tu as des dettes enregistrées puis que tu meurs, tu passes tes dettes à ta succession. Il y a des manières de ne pas les payer, mais il y a des situations où c'est pas possible.
Mm.
Tu sais?
Mais
fait que, légalement, il y a des affaires qui se peuvent, puis il y en a d'autres qui se peuvent pas.
Ouais, t'sais? C'est ça.
Mais il y a des paiements de dettes qui sont. Tu sais?
Ouais, OK. Mais tu sais, OK. Une maison, là, mettons.
Ouais.
Là, t'sais, comme la maison, si toi, tu n'es pas capable de finir de payer l'hypothèque, puis il n'y avait pas de manière de la payer, ben la maison va être récupérée. Tu sais, exemple.
Oui, mais tu sais, il y a des situations où il va falloir que tu renonces à de l'héritage, puis ça implique de renoncer à des objets puis à des affaires parce que il y a une dette en argent qui est trop importante. Tu sais, ça dépend toujours des situations, mais je ne connais pas les détails, mais je me suis fait expliquer ça vaguement par mon père à un moment donné. Quand j'étais ado, que oui, il y avait des circonstances où si tu avais des dettes, tu les donnais à ta succession, tout dépendant de comment tu avais arrangé tes affaires, ouais.
Hey, tabarouette, hein?
Fait qu'on n'est pas à l'abri de rien.
Écoute, moi j'ai des dettes actuellement, mais en fait, c'est ça, j'ai pas des très grosses dettes, là, une petite marge de crédit, là, mais c'est comme pas tant que ça. Là. Non, pour vrai, c'est pas gênant.
Non.
Mais j'ai commencé à placer des REER quand j'ai eu un bébé parce que j'ai fait comme...
Ah non, c'est ça, là. Puis à un moment donné, c'est comme... là, on va avoir une conversation de trentenaire, là, mais c'est... quand vous faites des enfants, puis vous commencez à avoir des biens immobiliers, puis que vous faites des testaments, guys, parce que c'est important.
Mais moi, je suis mariée, fait que légalement, je suis comme un peu béton là-dedans.
Ouais, mais en même temps, si tu veux donner des choses à d'autres personnes, ça peut...
Non, comme... non, ça, c'est oui, mais tu sais, dans le fond, en ce moment, c'est comme, tu sais, je suis mariée, tout va à mon conjoint avec qui je suis mariée, puis genre... tout va à l'enfant.
Oui, clairement. Ben, le mariage, ça fait ça. C'est aussi quand vous avez des enfants. Je sais que tout le monde ne croit pas à cette institution-là, mais avoir des enfants puis se marier, c'est une bonne affaire. En tout cas,
si je n'étais pas une personne queer qui est dans un polycule avec beaucoup trop de partenaires, je te dirais que je suis la Pierre-Yves McSween de cette émission. Parce que je suis la première personne qui fait comme le mariage, là, c'est d'abord et avant tout un contrat.
C'est un contrat.
Fiscal.
C'est un contrat fiscal. Puis c'est pour ça que toutes les personnes queer veulent avoir des droits égaux de pouvoir le faire. Je veux dire, mettre ses avoirs en commun, c'est primordial. Bref, The Bear.
Mais c'est ça.
En fait, je pense que, tu sais, la première saison, moi, est un peu loin dans ma tête. Le schéma narratif est quand même très classique.
Puis moi, c'est parce que je viens les écouter, là, les deux saisons. Là, mais
la deux est moins conventionnelle, un peu.
Je te dirais, en fait, que c'est que le rythme de la première est tellement effréné, mais est très circonscrit.
Oui.
Tu sais, peu de lieux, peu de personnes, tu sais, moins de personnages, moins de lieux, moins d'intrigues, mais beaucoup de développement d'intrigues personnelles, mais moins de... on s'éparpille vraiment pas tant que ça.
Non. Puis on nous montre beaucoup les dynamiques entre les employés, puis comment Carmi va essayer de devenir le meilleur chef de brigade pour sa gang.
Exact.
Va commencer à tweaker un peu le menu aussi à sa sauce, puis trouver des manières d'être plus efficace. Il y a de la résistance d'une certaine partie de l'équipe. Puis il y a toujours aussi cette histoire de Sydney qui l'idolâtre un peu parce qu'il y a la formation classique puis le prestige qu'elle voudrait. Lui, il n'a pas l'air à l'aise avec ce prestige-là. On comprend qu'il n'a pas été capable de suivre puis que ce resto-là, c'était un peu comme sa porte de sortie de...
Ouais, ben c'est clairement que c'est que dans le fond il était tellement malheureux en haut de ce piédestal là parce que puis pas une affaire de misère de riche là, une affaire de comme de genre de d'avoir tellement de harcèlement de la part de des autres personnes de sa cuisine. T'sais, c'est ça, je comprenais pas parce que c'était le chef, mais dans le fond, il y a quelqu'un qui était au-dessus de lui, j'imagine le propriétaire ou quelque chose comme ça qui lui criait après puis qui disait des choses qui littéralement lui disait. Je vais pas répéter ces mots-là, mais trigger warning, c'est des choses difficiles qu'il lui nomme, mais qui littéralement est juste dans une violence verbale, psychologique pour le briser.
Oui, constamment.
Constamment. Parce que, puis là, c'est ça, lui, il arrive, puis dans le fond, il arrive de cet endroit-là. Fait qu'on comprend un peu peut-être son impatience. Alors que la saison 2... Oui, vas-y.
Je veux juste le dire parce que maintenant, je le sais. Au moment où j'écoutais la saison 1, je travaillais pas dans la chaîne Resto Hôtel, mais maintenant, je sais, c'est que lui, il était chef, mais le gars en haut de lui, c'est le chef exécutif. Chaque cuisine, t'as un chef exécutif qui est comme le chef d'orchestre de toutes, puis t'as des chefs par section.
Je comprends.
Dans les grandes cuisines, ça marche comme ça.
Fait que t'as comme un coordonnateur qui touche à aucun instrument, mais qui s'assure que tout fonctionne.
Ouais, puis qui va développer les menus, puis ça va être son nom, puis tout. Mais c'est pas nécessairement lui qui... ça va dépendre des cuisines. Dans des cuisines plus petites, il va faire plus de jobs, mais tu sais, c'est pas lui qui fait la prep, puis les affaires de même. Puis c'est quand ta cuisine est très grande, puis que tu fais de la gastronomie, faut que t'aies un chef en haut, puis des sous-sections.
Ouais.
Pour que ça roule.
Exact.
Voilà, mais c'est ça, c'est probablement son chef exécutif en fait qui criait après lui,
qui murmurait en fait des choses absolument des choses atroces. Mais tout ça pour dire que la saison 1, oui, comme ça, puis évidemment c'est Rick qui a énormément pogné. Fait que là on le voit là dans le deuxième là. Plus de budget, plus de personnages, plus de
budget, my God, on peut s'en parler.
Non mais
pas de sens les vedettes.
Les vedettes, les caméos de toutes parts, tout le monde qui, tu sais, tu le sens là que tout le monde voulait être là-dedans là, tu sais.
Oui.
Puis des tournages à l'international, puis tout ça, tu sais. En même temps, je suis pas au courant de. Est-ce que c'est un genre de. C'est-tu une question juste d'argent ou c'est une question de, tu sais, les espèces de projets COVID, là?
Oui.
Parce que, tu sais, comme beaucoup de séries...
Une question à se poser
parce que, tu sais, avec les dates où c'est sorti, parce que le premier épisode est sorti en 2022. Donc, ça se pourrait que ça ait été tourné pendant des périodes où est-ce que c'est comme, ben, on va pas en faire trop parce qu'on sait pas on sait littéralement pas qu'est-ce qu'on va avoir le droit de faire dans deux semaines. Fait que tu veux en faire le plus simple possible qui inclut plein de façons de faire fonctionner une histoire sans avoir trop de monde, sans avoir trop de ci.
Ils ont probablement fait une bulle, en fait, avec leurs équipes.
Ben, hey, tu vois, je pense à ça, là, puis je serais curieuse d'aller réécouter la scène du premier épisode où, tu sais, les gens font la file, mais ils sont tous déguisés en cosplay.
Oui.
Puis voir qui là-dedans,
a un masque. Tellement.
Parce que, ben, pas un masque chirurgical, mais tu sais, genre, mettons, ils ont une tête de mascotte, ils portent une cagoule ou quelque chose comme ça. Je serais vraiment curieuse de revoir cette scène-là juste pour faire comme « Ah! » Il devait être en temps de pandémie, puis voilà. Mais tout ça pour dire que la saison 2 est effectivement peut-être moins traditionnelle, mais c'est parce qu'en même temps, c'est que la saison 2, j'avais plus l'impression que justement, mettons, dans saison 1, où t'avais des, par exemple, la première scène de la série, où est-ce que, bon, The Bear, c'est parce que, dans le fond, ils se font tous surnommer The Bear, mais lui particulièrement, mais de ce que je comprends, vu que c'est la famille Berzato, son frère aussi se faisait appeler The Bear. Là, ouais. Il y a comme quelque chose, justement, dans cette... C'est comme, donc, voyons... ce briquet des Berzato.
Oui.
Et t'as la première scène où est-ce que c'est lui qui essaie, dans le fond, d'amadouer un ours qui est dans une cage. Puis là, c'est là qu'on voit que, dans le fond, mais c'est qui l'ours? Dans le fond, mais c'est lui-même l'ours, parce qu'il peut pas se calmer. Puis on voit, en fait, toute la saison 1, on est comme super dans l'empathie envers Kermit, jusqu'à ce qu'il pète une très, très, très grosse coche à la fin de l'avant-dernier épisode.
Oui.
Avant qu'il décide de mettre la clé dans la porte, puis ça va juste être plus simple comme ça, parce qu'à un moment donné, il y en a juste trop de problèmes. Mais c'est là qu'on voit, ah, OK, il y a ça en lui. T'sais, il y a cette espèce de grande colère, puis de grande de grand trouble, en fait, qui sort souvent sur le dos des gens qui aiment. Puis c'est ce que j'ai trouvé un peu difficile, en fait, c'est que j'avais l'impression qu'on avait déjà passé par là dans la saison 1 quand on l'a vu péter sa coche puis que les gens ils l'ont lâché comme un peu à la fin de la saison 1. Mm-hmm. Que Sydney est partie. Que Sydney, elle a fait « Hey, you know what? Je m'en vais. »
Ouais.
Mais à la défense de... à la défense de Carmi, j'étais comme... Sydney, elle a fait un... Elle a punché à cabochon. Mais elle a pas punché à cabochon. Il commençait les take-out. Il commençait les delivery, les livraisons, dis-je. Oui. Puis elle a oublié de faire comme... que tu... Mais tu sais, j'étais comme... Mais c'est son erreur à elle. Mais vu que Carmi est complètement inapproprié de la façon dont il essaie de régler la situation, elle fait « Hey, you know what? Je m'en vais. » Ça m'a comme rendu un peu mal à l'aise dans le sens où je suis comme... Ben... Non, tu sais, comme si c'était mon erreur à moi, je me suis sentie trop mal, mais en même temps, c'est sûr que c'est une accumulation de plein d'autres affaires, puis que Carmi était problématique aussi avant, fait que tu sais, c'est plus compliqué que ça. Mais tu sais, en même temps, peut-être une fucking bonne réponse aussi au stress de soi-même faire « Hey! » Dans le fond, j'ai pas à rester ici puis à vivre cette situation-là, même si j'en suis responsable, tu sais.
Il y a des manières de parler au monde qui font des erreurs.
Mais en même temps, Sydney qui est un beau personnage parce qu'elle a, dans saison 2, là, quand justement elle prend un peu les rênes de tout ça. Parce que j'ai l'impression que le Bear, on avait l'impression qu'on l'avait vu dans saison 1, mais on l'a vraiment vu dans saison
2. Oui, vraiment.
Tabarouette, sa crise. Mais là, ça, on peut pas passer ça sous silence. Là. La crise de Carmi, toute la saison 2, dans le fond, où est-ce qu'il ferme le restaurant à la fin de la saison 1? Il en ouvre un autre, il se donne un délai qu'il n'y a pas de crise de bon sens parce qu'ils sont comme, bon, ben, on le fait parce qu'on le fait, puis c'est la seule occasion qu'on va avoir à le faire, puis c'est ça, puis c'est tout.
Il faut qu'ils rentrent dans des budgets, puis il faut qu'ils. C'est qu'en fait, ils ont trop de pertes financières s'ils prennent leur temps pour ce qu'ils veulent faire.
Fait qu'ils se donnent trois mois.
Ça n'a pas de maudit bon sens.
Non, okay. Aucun bon sens.
On va se le dire, ça n'a pas d'allure. Puis.
Il en profite pour envoyer tout le monde faire suivre des formations.
Suivre des formations, puis c'est ça, ça se passe bien puis pas bien, pour tout dépendant pour certaines personnes. Exact. Mais puis c'est là aussi que, justement, on voit un éclatement du schéma narratif parce que on finit par avoir des épisodes où on suit des personnages dans leur démarche de formation. Par exemple, on a un il envoie Marcus à la même place où lui a été... faire son stage en pâtisserie. Il y a une phrase à un moment donné où est-ce qu'il dit « Ouais, j'ai vécu dans un bateau puis j'ai eu à nourrir un chat. » Carmi, à un moment donné, puis tu te rends compte qu'il est à la même place que Marcus. Marcus aussi est débarqué dans un bateau puis il y avait un chat à nourrir qu'il a jamais vu.
Voilà.
Puis c'est ça, il l'a envoyé justement à, je pense que c'était à Copenhague.
À Copenhague, ouais.
Suivre des formations de pâtisserie avec un gars vraiment cool.
Ouais.
Genre, le personnage est vraiment nice. J'avais vraiment envie d'être son ami. Qui était à un moment donné aussi dans l'hyper-performance, puis qui a fini par revenir à une manière plus simple de faire les choses pour sa santé mentale. C'est vraiment beau aussi le lien qui se crée entre deux gars qui ont rien à voir. Tu sais, un grand black de Chicago, puis un
anglais de.
Ouais.
Un jeune British.
Un jeune British qui habite à Copenhague, tu sais, puis.
Mais
tout ça était fabuleux.
Avant qu'on parle de l'épisode de Richie qui est extraordinaire,
oh, oui.
J'ai quelque chose que je veux clarifier avec Marcus.
Oui.
Très beau personnage, rien à dire là-dessus. Moi, j'avais compris qu'il était gay. Ben, c'était full du queer coding dans la première saison. C'est mon coloc qui vient me montrer ses couleurs de Pantone. Genre, dans ma tête, c'était clair, c'était son chum. Je suis même allée valider cette information-là avec d'autres personnes qui avaient écouté l'épisode, mais qui n'avaient pas comme écouté d'autres, la saison 2. J'ai dit, non, mais Marcus, c'est son chum, là. C'est son chum, là, le gars qui vient de débarquer, là.
Je sais pas, en plus, dans la saison 2, ils ont dirigé son axe narratif sur complètement autre chose.
Et 100%.
Avec sa mère.
Exact. Mais là, tu sais, son coloc avec qui... Puis moi, je me suis dit, ça se peut super gros que... les gens sont pas... Tu le sais, ça, là. Les gens sont pas juste gays puis hétéros, là. Puis tu sais que non. Je le sais, puis t'es comme... Voilà.
Oui.
Où je m'en vais avec ça, c'est que je suis comme... Il y a tellement eu de queer coding autour de ce personnage-là. Comment ça se fait que là, la série nous in que lui pis Sydney is a thing? Et Sydney, lui, pourrait être a thing. Puis il pourrait être aussi avec son coloc. Puis tout ça se peut. Mais j'étais
tu peux
comme...
juste être un gars qui a un sens inné des couleurs aussi. Le gars, il fait de la pâtisserie
non,
aussi.
Non, c'est le fait que quand il a demandé c'est qui lui, puis il a fait c'est mon coloc.
Je sais pas.
Hey, tu réécouteras la scène, là. Ça a vraiment.
Mais il pourrait être. C'est ça, il pourrait être pan aussi.
Ben 100%. Il pourrait être pan, il pourrait être. Polyamoureux pan.
On va peut-être le savoir dans saison 3.
Peut-être qu'on va savoir dans saison 3, mais quelque chose à surveiller parce que pour vrai, cette dynamique-là, mais tu vois, moi j'étais comme, ben ça se peut que dans le fond, il est pas out. Ça se peut que si, ça si. Mais là, ce qu'on voit ensuite, lui puis son coloc être à l'aéroport, puis que là, tu sens qu'il y a comme une weird dynamique, genre, puis dans la scène justement, quand il va à Copenhague, il fait comme, tu vas-tu surveiller ma mère, tu sais, tu vas-tu comme t'occuper de ma mère, puis c'est comme, oui, je vais m'occuper de ta mère, I love you, man, nanana, mais qui se serre la main, genre, tu sais, c'est très, très froid quand même. Et je me suis dit, there's something there. Je sais pas c'est quoi, mais there's something there. Puis je suis curieuse, est-ce qu'ils ont décidé, mais en même temps, tu sais, voyons, tu sais, The Office, là.
Ouais.
Le personnage de... là, j'ai des... Un des gars de la comptabilité, là.
Qui était, Oscar?
Oscar, qui était homosexuel.
Oui.
Mais dans la saison 1, il est full hétéro. Puis ils l'ont dit, les auteurs, genre, ils ont changé d'idée à saison 2.
Oui, puis en fait, ils l'ont pas tant...
Ben, c'est qu'il y a la scène où est-ce que, dans le fond, Michael, il y a une scène à un moment donné où il y a un problème, puis genre, lui, il nomme le fait qu'il avait une date avec une fille. Puis dans le fond...
Oui, mais en même temps, ça peut aussi être du camouflage.
Oui, mais les auteurs l'ont dit qu'ils ont changé d'idée.
C'est possible, mais en même temps...
Non, mais ça fonctionnait quand même.
En même temps, il était pas tant fixé sur la...
C'est qu'ils ont décidé que le personnage allait être gay à saison 2, genre. Ou au courant de la saison 1. Mais ils ont changé d'idée pendant l'écriture, ils avaient déjà tourné des affaires. Fait que, tu sais, ça se peut aussi, ça, là. Tu sais, comme, on a décidé ça, puis finalement, c'est plus ça qu'on veut faire.
C'est plus ça. Mais, tu sais, je veux dire, tout est justifiable après coup. Moi, si ça défait pas si ça défait pas l'histoire que je peux me faire dans ma tête à propos de ça, moi, les 180, ça me gosse un peu, là, les affaires quand c'est pas justifiable.
Non, mais c'est justifiable encore parce que c'était très subtil, mais j'étais comme, ça, c'est du queer coding. Vous l'avez faite, là. Vous nous l'avez hinté, là. Mais je vais la réécouter, puis je vais... Mais...
Ça dépend toujours du point de vue, tu sais. C'est bien... Ouais. C'est bien... je sais pas. Je saurais pas quoi dire parce que je...
Ben, réécoutez la série en pensant à ce que je l'ai dit, puis vous
parce qu'en fait, faudrait savoir c'est qui a écrit les dialogues, puis c'est qui a fait le...
La direction
le
des
main,
acteurs.
Le main writing de cette affaire-là.
La Bible.
Parce que des fois, juste de savoir si ton auteur est queer ou pas, ça peut te donner aussi une indication. Parce que je te garantis qu'il y a une génération d'auteurs hétéros qui ne pensent pas forcément à ça. Hein. Puis qui font juste écrire des affaires en pensant pas vraiment à ça. Fait que je sais pas où me positionner.
En tout cas, si jamais dans saison 2, on apprenait que c'était une personne queer, polyamoureuse...
Dans saison 3, ça se pourrait... Moi, je serais très d'accord avec ça. Ça me dérangerait pas 30 secondes.
Ou que, dans le fond, il était vraiment avec son coloc, il est plus avec son coloc. Là, il est avec... d'accord. Mais à surveiller.
À surveiller.
L'épisode de Richie.
Toutefois, je veux juste dire que je suis contente quand même que ça soit pas tout le temps le focus des personnages, leurs intérêts amoureux constamment.
Non.
On apprend beaucoup de choses à propos d'eux qui n'ont pas rapport avec ça, puis je trouve ça vraiment rafraîchissant.
Ah, 100%, mais c'est plus parce que j'étais comme... Pourquoi ça me semblait évident, puis que là...
Moi, ça m'a passé mille pieds par-dessus la tête, ça a l'air de t'avoir tellement troublé.
Parce que je l'ai écouté deux fois la saison 1, en fait. Parce que je l'ai écouté une première fois, puis là, ensuite, j'étais avec ma mère, puis j'ai dit comme, « Hey, on l'écoute... » Tu veux-tu comme l'écouter, parce que c'est ça que j'ai envie d'écouter, mais je viens d'écouter comme les sept premiers épisodes. Fait que les premiers épisodes de la série, je les ai revus deux fois.
Et moi, j'aurais pas pu le re-regarder. Tu sais, j'ai lu des affaires en diagonale là, pour me rafraîchir la mémoire, mais ça, c'est trop de...
Mais je les ai écoutés la même semaine,
c'est trop
en
intense. T'es capoté. J'aurais jamais été capable. En tout cas, mais bon, saison 2, c'est ça. On arrive dans autre chose. L'épisode avec Richie.
Ouais.
C'est quand même... Oui, c'est quand même fascinant, ça.
Mais en fait...
Il est beau, cet épisode-là.
Il est super beau. Puis en fait, en plus, on vient d'avoir l'épisode de Noël.
De Noël de famille, avec le casting le plus dispendieux de l'histoire de la télé.
Ça, cet épisode-là, ça m'a rendu mal. Ça, tu vois, mettons, là, la cuisine, ça me dérangeait pas, là. Ça, je me sentais pas bien. Parce que ça, j'avais eu des PTSD de la famille.
Ah, c'est ça. Moi, ma famille a des problèmes, mais pas ceux-là.
Ah, écoute, Noël, pas Noël, s'il faut dire des choses inappropriées puis rappeler aux gens à quel point ils nous ont déçus pendant des années, c'est là que ça va sortir.
Oui, bien sûr, pourquoi pas.
Pourquoi pas. Ok, ouais. Mais tout ça pour dire que... Fait que ça, j'ai trouvé ça rushant. Mais fait que d'avoir cet épisode-là, de découvrir un peu la dynamique que Richie avait avec sa blonde... avant que sa blonde s'en... Le fait que le chum de Sugar, qui est la sœur
de Michael et de Carmi,
qui, dans le fond, était avec le même gars depuis tant d'années que ça, là, tu sais, comme, puis que ce gars-là, dans le fond, il est juste sweet, là. Mais c'est ces gens-là qui ont... Parce que la première saison, on nous décrit beaucoup son chum, que là, son nom m'échappe, mais je vais le retrouver en regardant Pete. Donc, Pete, le nom le plus...
Bland.
Mais Pete, il est comme un peu décrit comme le, dans saison 1, surtout genre le awkward qui veut juste trop faire partie de la gang et tout ça. Mais dans saison 2, quand tu vois les choses du point de vue de Pete, t'es juste comme, non, ce gars-là, il est juste très gentil, mais vous lui laissez aucune place parce que vous êtes trop dans vos bibittes.
Vous êtes brisé, puis lui, il l'est pas, puis il essaye de bander comme un humain normal voudrait le faire.
Exact.
Puis c'est vous qui êtes bizarre, c'est pas lui.
Exact.
Puis c'est là qu'on comprend, en fait, Pete.
Ouais.
Pour lui, je suppose que c'est bien. Pour sa trame narrative aussi, c'est intéressant parce qu'au dernier épisode de la saison 2, il fait quand même quelque chose d'assez...
Pas cohérent avec son personnage? Il prend une bold decision?
Il prend une bold decision. C'est ça qui est pas cohérent. Mais moi, je trouve que le reste est cohérent. Là.
Oui,
il veut protéger sa blonde.
Oui, c'est pour une bonne raison.
Ouais, mais c'est une très bold decision de la part de Pete. On s'attendait pas à ça. Là.
Non, c'est ça.
Mais oui, c'est quelque chose de gros. Écoute, la mère...
Ben, Jamie Lee Curtis, écoute.
Qui est joué avec brio par Jamie Lee Curtis, qui est difficile à détester, on va se le dire.
Dans le sens que son personnage est facile à détester.
Ah oui, mais elle comme actrice, quelle
générosité.
C'est fantastique. Ça serait un peu...
Vous gâchez le plaisir si vous l'avez pas vu.
Ah
vous en
mon
parler.
Dieu, c'est si bon. Ça serait un peu dommage qu'elle ait aucune nomination au Emmy pour ça.
Pour avoir été là un épisode.
Un épisode.
Et une petite scène plus tard dans la saison, comme qu'on la revoit brièvement. Mais...
Et honnêtement, ça vaudrait une nomination.
Ben, un peu comme, beaucoup moins importante, mais tu sais, là, la Jennifer qui a gagné pour White Lotus.
Oui,
là.
Jennifer Coolidge.
C'est ça, voilà. Ce genre de grande performance-là.
Oui,
là,
exact.
Ce genre de grande performance-là, de jouer une espèce de grande tristesse, je vais dire folie, mais pas dans le sens péjoratif du terme, mais cette espèce de... d'intensité-là féminine, là, tu sais, qui pourrait avoir l'air comme très caricatural, mais ça, tu vois, ça me fait poser la question, c'est écrit par qui, cette série-là?
Oui, oui, vraiment.
Hey, attends, c'est une petite bonne question, en fait.
On s'est jamais
c'est
même posé la question.
Ça a été créé par Christopher Storer, qui a écrit pour Bo Burnham, qui a produit Eighth Grade, donc le film de Bo Burnham.
Oui.
qui a produit des shows d'humour, qui a produit Rami, la série télévisée Rami.
Oui.
Et qui a produit aussi des shows d'humour, donc entre autres pour Hassan Minhaj.
On dirait que ça s'explique. On dirait que je comprends.
On reconnaît le lore, on dirait.
Oui, oui. Tout ça a du sens.
Ah ouais, okay.
Oui. Ce que je trouve intéressant dans l'écriture de ce personnage-là, c'est que...
on parle de la femme.
La mère Berzado, qui est... c'est ça, de Jamie Lee Curtis. C'est que... Souvent, dans les personnages féminins, c'est pas comme ça qu'on va montrer... une femme qui n'est pas capable d'exprimer ce qu'elle ressent correctement. Mmh. Puis là, on assiste à un personnage qui est dans l'explosion, dans la colère, dans l'amertume énormément.
Mais écoute-moi, la scène où est-ce qu'on la voit là, refuser systématiquement l'aide.
L'aide, oui. Puis elle est débordée. Puis elle refuse l'aide. Elle est épuisée de son repas de Noël qui n'a aucun sens, que personne n'a demandé, que personne veut tant que ça, comme ça.
Non, mais c'est ça, c'est que quand les gens se disent « je vais t'aider », elle les rejette, oui, là, avec une...
Férocement.
Puis qui va dire après « personne me donne rien, t'sais, personne me donne du crédit, ouais, pour ce que j'ai accompli, puis personne n'aurait levé le petit doigt pour ça. » C'est comme « OK, là, t'es pas en contact avec la réalité, là. »
Non, tu fais tous les scénarios dans ta tête puis tu présumes de tout ce que les gens,
exactement,
vont dire. Et moi, j'ai connu des gens comme ça.
Ben oui, moi aussi.
Et là, là. Et c'est...
Leur perception est plus importante que ce qui s'est passé.
Oui.
Puis ça devient la réalité, en fait.
Et c'est des attitudes très victimisantes. Puis, au final, tu fais « Non, 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 c'est pas ça qui est arrivé. » Puis... pourquoi cette réaction? Et là, tu comprends d'où ces enfants-là viennent.
Exactement, exactement.
D'où est-ce qu'ils sortent? Pourquoi ils sont brisés comme ça? Puis pourquoi eux-mêmes aussi ont tendance à reproduire ce pattern-là à plein de niveaux, de se créer des choses qui sont pas là, de vivre dans un... En fait, de vivre dans un univers parallèle, mm-hmm, à la réalité où... Ils n'entrent pas, les deux n'entrent pas en relation, en fait. Mm-hmm. La réalité versus leur vie intérieure ne rentre pas en relation. Mm-hmm. Donc, leurs relations avec les autres sont complètement impossibles et incongrues.
Et là, ça serait le moment où est-ce qu'il faut que je parle de la relation de Carmi et de son idylle amoureux.
Oui, parce que il est très mobilisé en termes d'idylle amoureux
parce
pendant la saison 2.
Il décide qu'il y a 3 mois pour ouvrir un restaurant. Il promet à Sydney qu'il va être là. Finalement, ben, c'est le moment où est-ce qu'il décide aussi qu'il a le droit de vivre, parce que dans le fond, il n'a jamais, oui, eu la chance de vivre, et qu'il va vivre donc sa relation avec Claire. Claire qui me gosse comme personnage, mais pas pour les raisons qu'on pense. Dans le sens que ce qui me gosse avec Claire, c'est le fait qu'on l'a écrit de cette façon-là. Parce que clairement, c'est quelqu'un qui est très sensé. C'est quelqu'un... Qui est drôle, qui est witty, qui est agréable, qui clairement démontre une grande empathie, une grande écoute. Mais on l'a vraiment dépeint au niveau de la réalisation puis de sa façon d'être rentrée dans la série. J'ai vraiment l'impression qu'elle est rentrée comme, désolé l'expression, mais comme un cheveu sur la soupe.
Ah oui, complètement.
Puis on a quasiment voulu que... Mais tu vois, ça me fait penser en fait que peut-être comme un peu comme Pete, des fois je... Pendant que je te parle, je suis en train de réfléchir. Là. Ça se peut que ça sorte tout croche, OK?
Okay.
Parce qu'il y a... On
fait des erreurs aux Amazones, OK?
Ah, ça, c'est sûr,
on
mais...
On fait des erreurs.
100% du temps, on est bénévole. Là. Y a pas
on fait ce qu'on veut.
Marie-Christine disait qu'elle n'avait pas aimé le personnage de Claire parce que c'était vraiment ce qu'on décrivait comme le trope de la pixie girlfriend, qui est vraiment comme une espèce de personne idéalisée, qui est tout le temps drôle, qui est tout le temps on point, qui est super patiente, mais qui est quand même genre affirmée, mais qui, dans le fond, va être dans une folie interne. Tu sais, il y a beaucoup de choses chez ce personnage-là qui existent, mais qui n'existent pas. C'est le Zoé Deschanel, la série.
En fait, moi, à un moment donné, je me suis dit, ça, c'est un personnage de fille écrit par un gars. Puis, attends.
Oui.
Puis, il y a eu à un moment donné une script édite, un genre de Carrie Fisher là, qui dit la script doctor là, qui dit la vérité comme elle sort là, ouais, avec sa clope puis tout. Carrie, tu es son âme. et qui a dit... Ouais, ça, c'est écrit tout croche, ça. Ça, c'est une pixie girlfriend. Moi, j'y donnerais un deuxième brainstorm. Et là, le gars s'est réveillé avec un éclair de génie en faisant « On va faire un médecin avec, puis ça va régler tous les problèmes. »
Mais
le... c'est un peu ça que j'ai eu l'impression. J'ai eu l'impression qu'il a patché avec une affaire. Il a amené des éléments pour qu'on oublie que c'était ça au début, mais il n'a pas vraiment réécrit son
bonhomme. Puis que tout le monde l'aime.
Puis là, il n'a pas vraiment réécrit son bonhomme, mais elle manque de profondeur.
Mais tu vois, et c'est en réfléchissant, c'est en parlant, parce que je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord, c'est ma première perception. Mais là, j'ai pensé à Pete.
Ah, oh, Pete.
Mais là, j'ai
on
pensé
y revient,
à...
hein?
Oui, on revient à Pete. Parce que je me demande, puis peut-être que c'est pas vrai, puis genre, peut-être que je surinterprète la vie, là, en ce moment-là. Mais je me questionne, en fait, sur... Parce que en fait, il y a beaucoup des scènes qui sont avec Claire qui avaient comme pas rapport dans le sens que la réalisation était cassée à ce moment-là. Puis il y avait comme une espèce de réalisation très feutrée.
Ouais.
C'est des plans très rapprochés de son visage.
Ouais, dans des moments d'intimité, tu sais, très, très à la maison.
Mais tu sais, comme, mettons, axé sur ses lèvres, ouais. Même quand il se rend compte, il y a comme de quoi qui était un peu off dans la réalisation à ce moment-là. Ouais. Puis là, tu vois, je t'aurais me demandé, est-ce que le personnage de Claire est un pixie girlfriend? Trope? Ou est-ce que le personnage de Claire, en fait, semble mal écrit parce qu'il ne représente que ce qui était perçu par Carmi.
Et là, tu vois, je serais très contente. Mais ça pourrait être ça, parce qu'en fait, Carmi est fâchant à chaque minute qui passe avec elle, parce que... mais arrête de la regarder comme un bijou précieux, puis dis-y au moins que tu tiens à elle, ou machin, machin. Puis c'est un peu tout son struggle, c'est que non seulement, d'un côté, il n'est pas impliqué dans le projet dans lequel il devrait être impliqué, mais il veut s'impliquer avec une fille à qui il n'est pas capable de dire des choses base.
Exact. Puis tu vois, encore une fois, je vais réécouter la série puis je vais y penser. Mais la scène où est-ce que... la scène où est-ce que t'as le fameux appel téléphonique où Claire lui dit dans un message « Hey, je viens de vivre quelque chose de difficile au travail parce qu'il est urgentologue. » Je viens de vivre quelque chose de difficile au travail, puis genre, blablabla, bla, bla, je t'aime.
Oui.
Puis que Carmi, ça le brise. T'sais, ça le brise d'entendre ça. Mais je me demande, j'aimerais comparer, mettons, comment est-ce qu'elle parlait dans le reste de la saison, puis comment elle a parlé dans cet appel téléphonique-là, puis de me dire, ah, c'est peut-être ça la vraie Claire. T'sais, cette espèce de douceur-là que tout le monde lui reconnaît, cette espèce de... Mais, tu sais, dans une espèce de vulnérabilité comme qui était justement pas dans un... Parce qu'au début, elle a vraiment l'air d'être au-dessus de son enfant. Elle a l'air d'une personne qui n'existe pas. Moi, je connais personne qui est de même dans la vraie vie, là, tu sais.
Ben...
Je connais... moi, je connais personne qui est de même dans la vraie vie, mais...
Non, mais tu sais, je veux dire, elle a sûrement des défauts,
non, mais... c'est sûr, mais... Tu sais, qui, à ce point-là, est comme... Ah, oh, j'overperforme, mais en même temps, je m'en calisse, mais en même temps, genre, je suis super à l'écoute de tout le monde, mais en même temps, comme, je suis tellement drôle parce que je méprise un peu tout ce que genre ce qui est méprisant. Mais dans le fond, ce que je le méprise avec quand même vraiment beaucoup d'amour, ce qui me rend très sympathique.
Moi, ce qui me fait capoter, c'est surtout quand elle s'intéresse à un gars comme lui, là.
Ah! Mais non, parce mais que c'est son vrai, amour de jeunesse. Mais c'est OK. Dans le fond, c'est genre les sweeters du secondaire qui avaient comme un fling, puis que ça s'est jamais passé parce qu'ils ont jamais avoué qu'il y avait un fling.
Ouais, mais tu sais, après le secondaire, tu changes.
Ben, c'est ça. 100%.
Moi, honnêtement, j'aurais daté ce gars-là 3 semaines, j'aurais fait, hey, pour vrai, il n'y a pas de maturité émotive, puis il parle pas, ça va être fucking compliqué, bye. J'ai l'impression qu'il fallait qu'elle y extrait chaque mot. Je veux dire, je peux comprendre que peut-être, tu sais, sexuellement, ça marche, mais tu peux pas baser une relation là-dessus. En tout cas, moi, ça m'a comme ben gros, je me demandais ce qu'elle faisait là.
Ben peut-être que parce que c'est un médecin puis qu'elle a pas de vie puis que lui, c'est un cuisinier puis il a pas de vie.
Peut-être.
Puis, ils vont pas
s'en
retrouver
dans le pot de vie. Ah, de toute manière, on se verra pas tant.
Ben, ça se peut. Ça se peut.
Je sais pas c'est quoi ses priorités à Claire. On sait pas son agenda.
Non. Mais dans tous les cas, je vais le réécouter la série puis je vais voir. Écoute, il reste peu.
Hey, t'es courageuse. Moi, je suis pas capable d'écouter ça, là. Je l'ai écouté une fois, j'ai trouvé ça super, mais je pourrais jamais réécouter ça, là. Il y a trop de bruit. C'est trop, c'est infernal.
Mais là, c'est parce qu'il reste vraiment plus de temps, Isa, là. C'est quoi qu'on veut dans saison 3? Est-ce qu'on veut que Carmi règle ses shit?
Oui, on veut que Carmi règle ses shit. On veut que Richie retrouve de l'estime de lui-même dans ses nouvelles découvertes sur lui.
Ouais.
On veut savoir Sydney Marcus. On veut savoir Marcus, qu'est-ce qui se passe. Puis on veut plus de Olivia Colman, qui fait un caméo d'une seconde écart. Puis j'en veux encore.
Ben, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été des nôtres.
Merci à toi, Ellie.
Merci à Aya, Mani, puis Marie-Christine. J'ai beaucoup pensé à vous. Puis peu importe quand vous nous écoutez, contente que vous l'ayez fait. Puis on lâche rien.
Rien.
On lâche rien pendant.